Et ensuite, ouais, et chercheuse postdoctorale à NYU, l'école de droit de NYU, et en même temps affiliée à Cornell Tech à New York. Et elle a réalisé sa thèse à Harvard avec Yohai Benkler, que beaucoup d'entre nous connaissent. Et voilà, et par ailleurs, je l'annonce, elle vient d'être recrutée pour être professeure à Northeastern l'an prochain. Donc, voilà, nous fait l'amitié de nous présenter un travail en cours sur sur l'accumulation des données et de l'attention dans l'économie des plateformes. Donc, Elettra réalisera sa présentation en français, ce qui est très sympa pour nous. Vous pourrez poser aussi vos questions en français, mais voilà, on l'autorise à nous répondre en anglais voilà, si besoin. Merci beaucoup, Elettra, de faire cet effort. Et donc, sans plus tarder, je te laisse la parole. Et puis, voilà, j'ai fait un petit commentaire rapide pour laisser le plus de temps possible à la discussion collective.
Génial, merci beaucoup Anne, merci Francesca pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Donc, comme vous pouvez le constater, je parle français, mais en fait, je ne suis pas très habituée à faire des présentations en français. Ce papier est en anglais, la présentation originale est en anglais. Donc, j'aurais peut-être du mal à reformuler certains concepts. Donc, il y aura sûrement des anglicismes. J'espère que vous me pardonnerez. Et je commence déjà en vous disant que le titre en soi, donc l'idée d'accumulation, en fait, devrait être « capture », donc « the capture of data and attention ». Et j'ai essayé de le traduire en « accumulation de données et attention » dans un sens, disons, d'extraction peut-être. Mais voilà. Donc, c'est un projet qui est encore en cours. Il y a beaucoup de potentielles idées, beaucoup de potentielles avenues à développer et je ne suis pas encore sûre quel papier j'ai envie d'écrire. Donc, j'accueille tout pushback et tout commentaire. Pour commencer, ce projet est à l'intersection de trois, disons, R thématiques. Sur lesquelles je me focalise dans ma recherche. Donc, ce projet est à l'intersection thématique de trois thèmes, disons, de trois areas of focus de ma recherche, la gouvernance des données, la gouvernance des contenus et la gouvernance des marchés, dont la concurrence. Et donc, c'est le thème, ce projet est sur le thème de l'attention, et en particulier, c'est sur la relation entre le concept d'attention ou d'engagement, peut-être, et la question de la gouvernance des données. Quelle est la relation entre la gouvernance des données et l'accumulation ou le problème de l'exploitation de l'attention online. Donc, la question que je pose est pourquoi des chercheurs comme nous, des policymakers, des institutions donc, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, donnent autant d'importance aux données comme centre ou locus de gouvernance et source de dommages. Je pense qu'il y a un panne avec l'audio, quelqu'un doit muter. Et si peu d'importance au concept d'attention. Donc, je propose une évolution conceptuelle d'une concentration sur la gouvernance des data et des données à plus de emphasis, peut-être, sur la gouvernance des infrastructures de l'attention. Donc, le plan de ma présentation, c'est que je vais d'abord définir quelques concepts de données, attention et plateforme de l'attention. Ensuite, je vais discuter un petit peu ce qui se passe du point de vue du droit des data, surtout en Europe, mais aussi ailleurs. Je vais essayer de théoriser le dommage à l'attention et sa relation aux données. Et ensuite, je vais conclure avec quelques propositions de policy, sur comment porter à des infrastructures de l'attention plus juste. Donc, qu'est-ce que les plateformes de l'attention? J'inclus dans ce concept les social media networks companies que l'on connaît comme Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi YouTube. Et j'inclus aussi d'autres business models comme le business model de Netflix. Bien sûr, il y a beaucoup de concurrents de Netflix, dont Hulu ou Amazon Prime, etc. Et aussi des plateformes qui sont un peu moins monétisées potentiellement, comme Reddit, qui fonctionne de façon assez différente. Et ce qui caractérise toutes ces plateformes, c'est deux phénomènes, la combinaison de deux phénomènes, la jonction de deux phénomènes. D'un côté, la capture, l'accumulation de l'attention à travers plusieurs phénomènes qui incluent des systèmes algorithmiques qui créent des expériences très engageantes. Il y a aussi des questions juridiques, des façons de cloisonner les utilisateurs sur les plateformes, non seulement les utilisateurs, mais aussi des service providers, à travers des contrats, des formes contractuelles qui rendent très difficile, très facile l'accès et très difficile l'exit. Et il y a aussi des questions de coûts potentiellement. C'est difficile de quitter Facebook parce que mes données restent sur Facebook, je perds toutes les photos que j'avais postées quand j'étais plus jeune, etc. Donc, d'un côté, donc, il y a la capture de l'attention. De l'autre, une fois que l'attention a été capturée, il y a la question de comment ces plateformes monétisent cette attention. Il y a plusieurs façons de monétiser l'attention à travers la publicité, mais disons, celle qui est le plus connectée à la question des data, c'est la publicité ciblée. Et le deuxième modèle, c'est le modèle des abonnements, des subscriptions, qui peuvent être mensuels, hebdomadaires, annuels, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment ces plateformes ou ces entreprises carry out, comment on dit, font ces deux, portent à bout ces deux fonctions à travers les données, d'une certaine façon. Donc maintenant, définissons l'attention. L'attention a été définie comme le temps de cerveau humain disponible à un certain moment dans le temps. L'attention peut aussi être définie comme, comme l'a défini William James, comme l'habilité de se concentrer sur un objet ou un phénomène aux dépens d'un autre objet. Donc, I focus on something and not something else. Dans un sens plus large, surtout dans l'économie digitale, on peut considérer l'attention comme synonyme d'autres concepts comme l'engagement, l'engagement, le comportement en ligne, la participation sur une plateforme digitale. L'attention a deux dimensions principales. Une dimension de durée, je porte mon attention à certains phénomènes à travers le temps. Et il y a une dimension d'intensité, je peux porter plus ou moins d'attention à un objet, je peux porter mon attention sur un objet seulement ou sur plusieurs objets à la fois, et du coup l'attention peut varier un peu. Donc les économistes, je ne sais pas s'il y a des économistes ici en physique ou sur Zoom, mais les économistes tendent à théoriser l'attention comme une ressource scarce, limitée. Et pourtant, ce que j'explore un peu dans ce projet, c'est le fait que différentes infrastructures digitales, différents médias peuvent changer l'attention, peuvent changer la façon dont on porte attention dans la durée et, de façon plus ou moins intense à travers le temps et dans une journée qui quand même a seulement 24 heures. Et donc, elle est, en quelque sorte, l'attention est une ressource extensible et qui peut être optimisée de diverses façons. Maintenant, parlons des data. Les data sont à un niveau très basique, des bits, des bytes, des 1 et des 0. Les data ont été théorisées par des juristes, des philosophes, des sociologues, particulièrement en relation à la protection des données, comme une extension du soi, comme quelque chose de très individuel ou de relié à la personnalité individuelle. Mais les data sont aussi quelque chose de plus collectif potentiellement, donc ils ont été définis comme la représentation matérielle d'un ensemble de relations entre personnes. Donc le data n'est pas seulement un data qui a à voir avec un individu, mais plutôt avec une population. Et dans ce projet, je définis la donnée comme le produit d'un contexte. Les données acquièrent la forme, les fonctions qui sont projetées sur ces données par ceux qui les collectent, les utilisent, les maintiennent, les organisent. Donc, étant quelque chose d'extrêmement contextuel, la question c'est que deviennent les données quand on se déplace dans un milieu de plateforme de l'attention. Et donc, la réponse tentative, limitée que je donne, c'est que les données dans les social media settings et dans l'économie des plateformes de l'attention permettent la transformation de comportements humains et d'attention humaine en classification, métriques, prédictions et profits. Et du coup, les données sont intéressantes du point de vue régulatoire, de policy, et donc pour un chercheur comme moi, à partir du moment où elles jouent un rôle décisif dans l'accumulation de l'attention et dans la création potentiellement de dommages à travers cette accumulation ou capture de l'attention, mais aussi à partir du moment où les données jouent un rôle décisif dans le fait qu'elles permettent aux entreprises d'accumuler des profits et des revenus. Ayant défini l'attention et les données et donc leur relation dans l'économie des plateformes, la deuxième question, c'est est-ce que le droit des données en Europe et ailleurs nous permet en quelque sorte de comprendre cette relation et peut-être de réguler l'accumulation de l'attention dans l'économie des plateformes. Il y a deux approches principales à la régulation des données. La première, c'est une approche, ce que j'appelle l'approche individuelle, ce qui est vraiment le RGPD, mais aussi beaucoup d'instruments de privacy law ailleurs. Et la deuxième approche, c'est l'approche sociale, qui voit les données comme quelque chose de plus collectif. Et la question, c'est est-ce que ces approches sont suffisantes? Donc, pour zoomer un petit peu plus dans ces deux approches, la première approche, l'approche individuelle, qui est l'approche du RGPD, conçoit la donnée comme une extension du soi. Donc, l'impératif, c'est de donner à l'individu plus de contrôle sur ses données personnelles. Le focus, disons, l'objet central du RGPD, c'est la donnée à caractère personnel et la personne concernée, the data subject. Donc, c'est très individuel comme approche. Disons, le centre du RGPD, c'est des droits individuels, le droit d'accès, le droit à la rectification, au verrouillage, à l'effacement, à la portabilité. C'est toujours des droits individuels que l'individu peut exercer. Et ces droits individuels sont souvent couplés avec d'autres mécanismes régulatoires qu'on peut appeler des private-public partnerships, potentiellement, qui sont, disons, des mécanismes qui permettent à, disons, aux institutions européennes ou aux agencies nationales de communiquer directement avec des entreprises et de leur imposer quelques obligations plutôt marginales, on peut dire, par rapport aux droits individuels que ces instruments mettent en place. Et donc, ces mécanismes incluent des analyses d'impact, des codes de conduite ou des certifications. Passons à l'approche sociale. Donc, l'approche sociale est beaucoup moins représentée du point de vue juridique, mais elle est très bien représentée dans le scholarship, dans la littérature sur les données. Donc, il y a une très riche littérature sur le fait qu'il faut arrêter de penser à la donnée comme un objet individuel et en fait qu'il faut réguler les data de façon plus collective. Et donc, comment on peut faire ça? Il y a eu plusieurs, disons, propositions qui incluent des coopératives, des trusts et des petites réalités collectives qui puissent permettre aller outre la question du consentement et la question du opt-in, opt-out par des individus dans l'économie des plateformes en particulier. Donc, la question que je veux poser, c'est premièrement, quels sont quelques dommages à l'attention? Et deuxièmement, est-ce que ces approches aux données peuvent nous permettre d'adresser certains de ces dommages? Donc, je propose quatre catégories de dommages. Ce ne sont pas exactement des dommages, c'est plutôt des phénomènes. Après, on peut attacher des dommages à ces phénomènes. Mais je pense que c'est un bon point de départ. Après, je suis très ouverte à discuter de ces dommages et d'autres. Mais donc, une catégorie de dommages, c'est la question des contenus ciblés, la profilation. La tendance à utiliser des données personnelles ou même collectives potentiellement pour diriger, pour target certains contenus à des individus ou des populations. Il y a la question de l'addiction. Je pense qu'on sait tous ce qu'est l'addiction, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a défini les jeux vidéo comme des potentielles drogues, ou a comparé les effets des jeux vidéo à ceux de la cocaïne et à d'autres drogues dures. Donc, c'est assez intéressant que les jeux vidéo peuvent avoir les mêmes effets hormonaux que des drogues très dangereuses. Il y a quelque chose qu'on peut appeler la polarisation, qui est plutôt peut-être définie comme une sorte de fragmentation de la société, le fait que les opinions deviennent de plus en plus divergentes et donc le dialogue entre personnes qui font partie d'une même communauté devient de plus en plus complexe. Et ceci peut porter à plusieurs types de dommages down the line. Et après, il y a la question de la viralité, ou ce que je veux appeler la décontextualisation de contenu ou d'expérience en ligne. Donc, le fait qu'on peut avoir un contenu qui est posté dans un certain contexte, qui après est décontextualisé et peut produire plusieurs dommages pour la personne qui a partagé ce contenu, mais aussi pour d'autres personnes qui peuvent être concernées par ce partage. Et donc, si on pose la question de le droit des données, et que nous donne le droit des données? Le droit des données se concentre surtout sur la question des contenus ciblés, sur la profilation. Donc, le droit des données peut nous permettre de, en quelque sorte, adresser certains dommages liés à la publicité ciblée et à la profilation. Mais le droit des données est très limité quand il en vient... Quand on pense à d'autres questions, donc aux questions comme l'addiction, la polarisation, la viralité, la décontextualisation, etc. Et je pense qu'il y a deux exemples en particulier qui illustrent pourquoi le droit des données peut être, disons, insuffisant pour penser à ces autres dommages. Donc, le premier cas, c'est le cas des plateformes comme 4chan, 8chan, Diaspora, Mastodon. Mastodon est devenu assez célèbre ces jours-ci à cause de Twitter. Et du coup, ces plateformes ne se financent pas forcément sur la publicité. Certaines se financent un petit peu sur la publicité, mais pas forcément sur la publicité ciblée, par exemple. Et donc, il y a beaucoup moins d'importance qui est donnée à la donnée personnelle comme source de revenus. Et pourtant, bien sûr, si on a quelques expériences, soit en étudiant, soit en participant à quelques-unes de ces plateformes, on se rend compte tout de suite qu'en fait, les dommages à l'attention peuvent très bien émerger dans ces cadres et dans ces environnements. Et du coup, la question, c'est si on se focalise simplement sur la régulation des données, on ne va pas forcément pouvoir adresser certains dommages réels qui se présentent aujourd'hui sur l'Internet. Et donc ça, c'est la première, disons, le premier cas. Le deuxième cas, c'est le fait qu'au sein de plusieurs entreprises technologiques, les chercheurs sont en train de se poser la question de comment créer des infrastructures qui sont moins dépendantes des données. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de production de données, mais ça veut dire que ces plateformes vont essayer de limiter la quantité de données qui est partagée avec des ingénieurs ou au sein de l'entreprise même. Du coup, il y a de la recherche sur ce qu'on appelle les PETS, les Privacy Enhancing Technologies, End-to-End Encryption, Differential Privacy, je dis tout ça en anglais parce que je ne sais pas comment on traduit. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on pourrait, dans le futur, avoir des infrastructures qui ne sont pas très dépendantes des données, surtout pas très dépendantes des données personnelles, mais où tout de même, on peut imaginer, on trouvera des dommages comme l'addiction ou comme des contenus viraux ou des contenus qui sont harmful d'autres façons. Du coup, la conclusion de cette partie sur le droit des données, c'est que la régulation des données est importante, mais elle n'épuise certainement pas la question de l'attention. Et donc, il faut compléter des approches aussi bien individuelles que collectives sur les données par une réflexion plus profonde sur comment contrôler et comment réguler les infrastructures de l'attention. Donc, maintenant, je veux de me concentrer un petit peu plus. Je sais que j'ai peut-être pas énormément de temps, je ne sais pas, dis-moi Anne, mais je veux me focaliser un tout petit peu plus sur la relation entre les données et les dommages à l'attention. Donc, je pense qu'il y a deux scénarios principaux et ça, c'est vraiment en progrès. Donc, I welcome tout commentaire. Donc, le premier scénario, c'est un scénario, disons, traditionnel qui s'applique à plusieurs phénomènes qui existaient avant l'Internet. Ou en ayant l'adresse postale d'une personne, on peut envoyer une lettre. En ayant leur adresse mail, on peut leur envoyer un email. En ayant leur numéro de téléphone, on peut les appeler ou maintenant leur envoyer un WhatsApp. Donc ça, c'est vraiment, disons, une façon d'utiliser la donnée pour capturer une certaine forme d'attention assez discrète et limitée qui existait avant l'Internet et qui continue, bien sûr, aujourd'hui dans l'économie des plateformes, pas forcément des plateformes de l'attention, mais aussi dans l'économie des plateformes de l'attention. Ce qui est nouveau, je pense, c'est un nouveau phénomène qui est cette espèce de loupe que je représente ici, qui est que l'utilisateur, nous, portons de l'attention aux plateformes de l'attention. Ces plateformes capturent notre attention à travers des infrastructures que je représente en gris, mais aussi à travers la création de données sur nous. Et elles utilisent ces données qu'elles ont créées sur nous, ces profils potentiellement, ou ces indices sur notre behavior, pour recréer encore plus de participation et d'attention. Et du coup, c'est là, c'est dans ce, disons, dans cette utilisation de la donnée pour créer de l'addiction, pour créer de la participation, pour créer encore plus d'engagement, que se pose vraiment un problème, je pense, éthique et potentiellement régulatoire, qui est comment éviter que nous passions tout notre temps sur des plateformes qui ont intérêt à nous faire passer tout notre temps sur leurs services. Donc, je pense que c'est utile de différencier deux types de business model. La réalité est beaucoup plus complexe que celle que je vais présenter maintenant, mais je pense que c'est quand même intéressant de faire un parallèle. Donc, j'ai regardé les rapports annuels de Facebook et de Netflix. Et donc, comme on peut imaginer, le business model de Facebook est très focus sur nous faire passer le plus de temps possible sur leur plateforme. Et ça, c'est expliqué par le fait que Facebook fait de l'argent à travers our eyeballs, donc le temps qu'on passe sur leurs produits. Voilà. Et ils le disent très clairement dans leur annual report. C'est en anglais, mais je vais vous le lire quand même. Donc, if our users decrease their level of engagement with our products, our revenue, financial results and business may significantly be harmed. Netflix est très différent. Netflix veut qu'on repaye un abonnement ou qu'on continue à payer un abonnement. Donc, ils ne veulent pas forcément qu'on passe tout notre temps sur Netflix, même ça peut leur coûter en fait qu'on passe tout notre temps sur Netflix. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'on repaye cet abonnement mensuel, voilà, qu'on subscribe, qu'on continue à subscribe. Et donc, ils veulent vraiment nous donner un service qu'on aime assez pour continuer à payer un abonnement. Donc, bien sûr, ils veulent qu'on passe un petit peu de notre temps sur Netflix. Parce que si on ne passe pas de temps sur Netflix, on ne va pas se réabonner. Mais ils ne veulent pas qu'on passe tout notre temps sur Netflix. Et du coup, je pense que ça nous porte. Et je veux aussi dire que ce n'est pas forcément vrai que Netflix vit seulement d'abonnements. De plus en plus, ces plateformes combinent la pub et des subscriptions. Et du coup, je pense que le business model est beaucoup plus complexe en fait, que ce que je décris ici. Mais on peut formuler une sorte d'hypothèse, disons, une sorte de théorie sur l'éthique de l'attention et de l'accumulation de l'attention, qui est que, bien sûr, il y a une partie inévitable dans la capture de l'attention sur les plateformes de l'attention. Donc, beaucoup de ces services qui sont basés sur l'attention doivent, en quelque sorte, capturer un petit peu de notre attention, sinon ils n'existeraient pas. Mais il y a un problème éthique à partir du moment où le processus d'accumulation, de capture de l'attention, potentiellement à travers les données, devient abusif et devient moins acceptable, là où il devient disproportionné, donc là où les logiques de profit, là où les intérêts de la plateforme dépassent les intérêts des utilisateurs, et donc là où les contenus auxquels on nous donne accès ne sont plus alignés avec notre besoin d'accéder à des contenus, mais simplement deviennent des façons pour des entreprises de se faire plus d'argent. Donc voilà, donc ayant, disons, formulé un problème de cette façon, bien sûr, c'est un problème encore défini de façon assez large, je veux proposer quelques, disons, policy interventions qui peuvent nous amener vers des infrastructures de l'attention plus justes. Et je propose trois étapes. Il y a une question de financement et de business model. Il y a une question de comment gouverner les infrastructures de l'attention de façon plus démocratique. Et enfin, il y a une question de design qui est très discutée dans le monde anglo-américain à travers le terme « friction ». Mais c'est en gros la perturbation de l'expérience en ligne et la, disons, tenter à travers le design de créer des expériences un peu plus discontinues et un peu plus humaines potentiellement. Donc, comment penser au business model ? Donc, il y a, disons, trois principaux aspects. Premièrement, il y a beaucoup d'efforts qui sont en ce moment en train d'être porté sur comment rendre la publicité en ligne plus transparente et plus compétitive. Donc, il y a des cas en Europe et aux États-Unis contre des entreprises comme Google et qui tentent, en gros, de recréer de la concurrence dans les écosystèmes d'advertising online. Et il y a des instruments comme le Digital Markets Act, le Digital Services Act, qui aussi interviennent un peu sur la publicité ciblée, mais aussi la publicité en général pour la rendre plus transparente et potentiellement moins dommageante, si on dit ça, je ne sais pas. Et après, il y a aussi des efforts de la part des entreprises elles-mêmes, de self-regulation, dont on peut être sceptique potentiellement, qui concerne la publication de rapports de transparence et, disons, plus de transparence sur quel type de advertisements sont payés par quel type d'advertisers. Un deuxième front d'attaque peut être potentiellement d'éliminer la publicité ciblée. Je ne sais pas à quel point ceci est plausible, mais il y a certainement beaucoup d'efforts en ce moment. Je pense qu'il y a 2 ans, ça aurait été complètement implausible et non réaliste de penser à ça, mais je pense qu'en ce moment, beaucoup de personnes pense que ceci pourrait happen. Sorry, j'ai du mal. Mais voilà, se passer et notamment le cas récent de l'autorité irlandaise contre Meta nous démontre qu'il y a des possibilités de ce point de vue-là. Et finalement, il y a aussi, je pense, un gros besoin de penser à des alternatives à la publicité en général, pas seulement à la publicité ciblée. Et du coup, on peut penser à comment changer l'économie des plateformes vers une économie qui est plus basée sur les abonnements. Je ne suis pas sûre que ça rendrait l'économie des plateformes moins addictive, mais je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir plus à ça. Il y a aussi des potentiels de créer des plateformes qui sont financées à travers des taxes, des microfinancements ou qui, disons, sont financées par l'État d'autres façons. Le deuxième front, c'est donc la démocratisation des infrastructures. Il y a beaucoup de réflexions autour de la démocratisation des data, donc comment collectiviser, comment créer des data commons, comment taxer le processing des données, comment créer des coopératives et des trusts pour permettre à des chercheurs d'avoir accès à des données médicales, par exemple. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de réflexions sur comment construire une économie des plateformes plus diversifiée, qui, bien sûr, ne doit pas exclure des business models qui sont basés sur des profits privés et des shareholders. Mais on peut penser à d'autres modèles potentiellement qui pourraient prendre le dessus ou au moins exister. Et il y a, en ce moment, il y a des exemples, mais c'est des exemples plutôt marginaux. Donc, on peut penser à Wikipédia, bien sûr. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Mastodon et on verra ce qui se passera. Ce ne sont pas forcément des business models qui sont non-profit, mais on verra bien. Je pense aussi à la Driver Seat Cooperative à New York. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est une alternative à Uber qui est en fait des taxi drivers qui se sont mis ensemble pour compete against Uber in New York et ça marche assez bien. Et du coup, plus d'alternatives dans ce sens pourraient être les bienvenues. Mais bien sûr, la démocratisation des infrastructures ne serait pas la solution à tout. Donc, il faut combiner non seulement une réforme de comment on finance et comment on construit des plateformes à une nouvelle façon de gouverner potentiellement ces infrastructures et finalement, avec une réflexion sur le design et comment perturber l'expérience en ligne. Et donc là, je pense à trois aspects. D'un côté, le côté de l'ampleur, what in English, ce qu'on dit, ce qu'on appelle le reach of content, l'échelle du partage de l'information. Et donc, réduire cette échelle du partage de l'information peut être fait par une réduction de l'audience potentiellement. Donc, au lieu de partager as a default, désolée, j'ai du mal à parler tout ça en français. Mais donc, au lieu de changer le default le default est global, public sharing, on peut changer le default à des petites audiences qu'on a choisies à l'avance. Ou même réduire la portée des messages, comme l'a fait WhatsApp, en limitant la possibilité de partager certains types de contenus à 5 groupes WhatsApp au maximum. Après, il y a une question de comment limiter la rapidité de la communication. Et ceci peut être fait à travers des nudges comme « Avez-vous lu l'article que vous êtes en train de partager, par exemple ?» ou quelque chose potentiellement de très controverse, mais créer des plafonnements au partage par jour ou par mois, par exemple. Donc, on a un certain taux de posts et pas plus. Et du coup, peut-être que ça limiterait l'attention ou la quantité d'engagement qu'on porte sur ces plateformes. Et enfin, quelque chose que l'on voit sur des plateformes, inclus Facebook, comme les recommandations algorithmiques de façon chronologique, de bouger, shift from une timeline qui est basée sur des recommandations algorithmiques à une timeline qui est basée sur une présentation chronologique des contenus. Donc, on voit les contenus quand ils sont postés. Du coup, on se retrouve avec beaucoup de contenus qui potentiellement ne nous intéressent pas tant que ça. Et donc, potentiellement, ça pourrait limiter l'engagement et l'addiction sur ces plateformes. Et enfin, il y a la question de combien de temps on passe en ligne et comment limiter ce temps. Il y a des initiatives par Apple et par d'autres entreprises tech qui essayent de nous aider à passer moins de temps sur leur plateforme. Le problème, c'est que bien sûr, on ne peut pas forcément se fier à Apple pour nous faire passer moins de temps sur l'iPhone. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de marge pour faire de la recherche sur comment créer des systèmes et des intermédiaires potentiellement publics ou des public utilities qui pourraient nous aider à limiter le temps qu'on passe sur certaines plateformes, mais pas d'autres, par exemple, ou qui nous aident à passer notre week-end avec nos proches au lieu de passer notre temps sur Internet. Voilà, donc pour conclure, je vais récapituler 3 potentiels avantages ou vertus d'une réflexion sur les infrastructures de l'attention qui puisse être combinée, bien sûr, à la réflexion sur les données. La première, c'est que une réflexion sur les infrastructures de l'attention, ça peut aussi nous porter à réduire la génération et l'utilisation de données, parce que le moins de temps on passe, le moins d'engagement on donne à ces entreprises, le moins de données sont produites sur nous. La deuxième vertu, c'est que en plus de s'attaquer à des questions de dommages de privacy, on peut aussi s'intéresser ou potentiellement adresser des questions d'addiction, de polarisation, de viralité qui ne sont pas forcément centrales au RGPD et à la réflexion sur la privacy et sur la protection des données. Et enfin, une petite, cerise sur le gâteau final, il y a aussi un petit profil environnemental parce que si on passe moins de temps en ligne, on dépend moins de serveurs et de processing of data dans des régions du monde et du coup, on contribue potentiellement à une réduction du réchauffement climatique. Voilà, je suis ouverte à toutes questions et merci beaucoup encore. Et je suis très intéressée par les réflexions d'Anne.
Ok, du coup, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, super. Donc, merci beaucoup, Eletra. Donc, j'invite aussi tous les gens présents. Je pense qu'il faut que tu éteignes ton son. Ouais. À lire ce papier dont tu as fait une présentation très synthétique, mais qui creuse en fait des littératures anglo-saxonnes qu'on ne connaît pas toujours très bien, avec énormément voilà, de références sur les débats qu'il y a au sein du droit américain sur ces questions. Et je vais organiser ma discussion en trois parties. Pour le coup, je ne change pas mon enseignement très hegelien là-dessus. Donc d'abord, ce que tu proposes sur comprendre l'économie des plateformes, la manière dont tu le formalises. Ensuite, j'aimerais revenir sur cette distinction que tu fais qui me paraît très stimulante entre une approche individuelle ou sociale des données. Et enfin, la perspective plus normative, ce que j'appellerais « Towards a better regulation of platform », qui m'intéresse beaucoup aussi en tant que politiste. Donc, je trouve que ton papier a le mérite de poser cette question qui est peut-être plus fondamentale qu'on ne le pense, c'est quelle est véritablement la place des données dans le modèle des plateformes, une place qui est peut-être, qui pourrait être surestimé ou en tout cas surestimé dans cette attention, sans jeu de mots, qu'on a eue pour le modèle de la publicité du pro-targeting, donc de la publicité ciblée, qui serait d'ailleurs peut-être un résultat d'un discours que les plateformes ont sur elles-mêmes, puisqu'elles ont intérêt à dire que ça cible extrêmement bien, puisque c'est ce qu'elles vendent en tant qu'annonceur, et ça rejoint en fait un certain nombre d'interrogations éthiques qu'on a pu avoir ici au sein du centre, et que tu évoques aussi à la suite des travaux de Yura et Beckler sur Cambridge Analytica. C'est-à-dire finalement, il y a aussi un intérêt à Cambridge Analytica de dire qu'ils y sont pour quelque chose dans l'élection de Trump et du Brexit. Mais en fait, les travaux de Beckler ont tendance à montrer que ce qui a joué du moins pour l'élection de Trump, c'est du moins le rôle important de rôle plus traditionnel comme celui de Fox News. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça invite à prendre de la distance avec cette perception qu'on a du modèle économique des plateformes. Et c'est une piste très stimulante sur la possibilité d'une économie d'attention sanctionnée avec un type particulier de données. On voit en effet se dessiner, tu mentionnes beaucoup de choses dans ton papier, comme les techniques de data minimization ou les privacy sandbox qu'a proposé Google, mais en effet, pas non plus. Une économie de la plateforme sans données, en tout cas les données ne sont qu'un temps assez restreint de la valorisation puisqu'on les poule dans un bac à sable et qu'on construit des modèles prédictifs qu'on peut ensuite réutiliser sans continuer à capter les données. Du coup, ça nous amène une critique vraiment intéressante de la notion pourtant très à la mode du capitalisme de surveillance qui fait de la donnée le cœur du modèle. Et finalement, pour te pousser un peu plus loin, je me demande, c'est pas du capitalisme de surveillance, d'après toi, donc qu'est-ce que c'est comme capitalisme? Ça, c'est des questions sur lesquelles travaille beaucoup Olivier. Et du coup, je me demande aussi comment tu te situes par rapport à d'autres tentatives de définir cette forme particulière de capitalisme. Alors, le capitalisme informationnel, qui est un petit peu différent du capitalisme de surveillance. Mmh. Et des travaux plus anciens, mais qu'étant enseignante à l'UTC, je me force de relire, qui sont les notions de capitalisme cognitif, ou l'idée quand même qui était avancée par Moulier-Boutan, mais qui est quand même intéressante, c'est que l'exploitation fondamentale, ce n'est pas celle de la donnée personnelle, c'est celle d'un travail fait par l'utilisateur en ligne. Donc là, c'est vraiment une exploitation d'une forme d'engagement. Donc, premier volet de questions. Et puis ensuite, peut-être là-dessus, revenir avec toi sur ce rapport entre attention, engagement et, et data. Dans le sens où je pense que là, il y a vraiment quelque chose à creuser qui est très intéressant. D'ailleurs, moi, je distinguerais quand même l'attention et l'engagement, puisque l'attention, d'ailleurs, est peut-être plus volatile à capter. On voit qu'il y a aussi un intérêt à produire de l'engagement, des clics. Et du coup, peut-être en renversant quelque chose, toi, tu dis... En fait, ce qui est pas la data, c'est qu'une étape dans la captation de l'attention. À un moment, j'ai renversé la chose et je me suis dit, ce que la plateforme capte, c'est de l'attention. Et du coup, ça donne lieu à un certain type de data, c'est-à-dire des data qui sont des clics, des vues, du temps passé en ligne. Et du coup, aussi inversé, c'est-à-dire comment... Le fait que ce que la plateforme enregistre, c'est avant tout de l'attention et de l'engagement, ça produit, enfin, en fait, ça crée une certaine forme de données et du coup, une donnée qui va être elle-même produire certains modèles prédictifs. Donc, c'est le lien voilà, que je pense vraiment intéressant. Comment on transforme de l'attention en données, comment l'engagement enrichit d'une certaine manière les types de données produites. Donc, je pense que là, il y a des choses... vraiment intéressante à creuser. J'en viens à mon deuxième point qui est, que tu as beaucoup plus développé dans ton papier, je trouvais ça extrêmement intéressant sur l'approche individuelle ou sociale de la donnée. Et donc, on voit qu'il y a une tendance à conceptualiser à la fois donc, la vie privée comme un droit individuel et du coup la donnée comme une chose. Une entité marchande qui peut être vendue, qui est plus ou moins exploitable, etc. Et le focus qui en résulte, c'est une individualisation des droits et de leur protection. Je reviendrai peut-être là-dessus dans la partie régulation. Donc, voilà, je pense que j'étais tout à fait convaincue sur la nécessité dans la recherche de passer à une approche plus sociale de la donnée, puisque cette donnée ne fait sens que en fait collectiviser, contextualiser et catégoriser. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi ces pistes que tu évoques sur la manière dont la donnée est catégorisée. C'est en fait ça le cœur peut-être ces dommages à la fois en termes de discrimination, mais aussi éventuellement de ciblage publicitaire. Et du coup. Ça a renvoyé à tout un tas de travaux que je te suggère, parce que je sais que c'est pas tes disciplines d'origine, mais donc sur les infrastructures de la donnée. En fait, en sociaux, c'est quand même des choses qui se développent vraiment beaucoup sur la manière dont on construit, mais aussi sur la maintenance de ces bases de données. Le rôle, c'est aussi des travaux qu'on fait beaucoup ici, des click workers qui labellisent, c'est-à-dire au fond, qui font partie de cette production de données, et ce moment, la labellisation qui peut être producteur ou non ou renforcer des discriminations, et puis la manière dont sont construits les IA qui vont réaliser les modèles prédictifs, puisque c'est aussi ces nouvelles manières en fait, de classifier qui est intéressante. Et du coup, alors là, je suis partie assez loin, mais c'est le propre des papiers comme ça qui sont assez stimulants intellectuellement, c'est que finalement, tu sembles dire que la violence, c'est pas tes mots, hein, mais le dommage qui vient du traitement des données à caractère personnel, c'est aussi la manière dont on catégorise en vue de quoi et comment. Et en fait, qui renvoie à presque des genèses hein, de la sociologie française. Donc, c'est les travaux de Bourdieu ou de Desrosières dont je te parlais, qui s'intéressent justement sur comment sont construites les catégories qui sont en fait des violences d'État. Et d'ailleurs, en fait, la protection de la vie privée, du moins en Europe, elle n'est pas comme une protection de l'individu tant face à l'entreprise que face à l'État et des potentialités qu'a l'État en tant que collecteur de données d'éventuellement discriminer les individus. Donc, du coup, elle va se focaliser sur certains types de données et certains usages de ces données. Donc, ce qui fait que dans la genèse d'ailleurs que tu décris sur l'histoire de la protection des données, je me demande si ça ne devrait pas être remis, tu pourrais injecter ça, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans la protection des données en Europe, qui est ce passage d'une protection face à l'État à une protection essentiellement face aux entreprises, et aussi en fait de revenir, quand on lit ces textes, où en fait la donnée est pensée comme un moyen qu'aurait l'État d'attaquer, de priver l'individu de certaines libertés individuelles. Et voilà, je suis peut-être partie un peu loin, mais ça m'a beaucoup intéressée, les pistes que tu évoques dans ton papier là-dessus. Et puis, sur la partie régulation, donc là, comme tu sais, qui m'intéresse énormément, donc beaucoup de questions. Je pense que la force de ton papier, et moi je le recalibrerai d'ailleurs un petit peu là-dessus, ce que tu critiques pour moi, c'est pas tant l'attention que les régulateurs ont porté à la question de la privacy et des données personnelles, mais plutôt, en fait, c'est une certaine conception de la régulation qui individualise le rapport de l'usager aux plateformes, puisque en fait ce que visent beaucoup ces régulations, et je pense que l'exemple du RGPD est très intéressant là-dessus, c'est de redonner du droit aux individus. Donc il aurait droit à de l'information, la plateforme doit l'informer, il aurait le droit de transporter ses données, donc de changer plus facilement de plateforme, le droit à l'oubli, etc. Et ce qu'on a beaucoup critiqué, c'est qu'en fait cette individualisation du droit ne tient absolument pas compte des asymétries irréductibles entre un individu tout seul face à la plateforme, du fait qu'il est pris dans une infrastructure, qu'un individu n'est jamais seul face à la plateforme. Et ce qui fait sens d'ailleurs, c'est le fait que l'individu, ses données, elles sont valorisables parce que tous ses amis sont en ligne, etc. Avec un déplacement de la question que je trouve extrêmement stimulant, c'est comment on rend ces droits, et notamment le droit à la vie privée, plus collectif. Là, je pense que c'est un vrai défi, c'est-à-dire comment on crée de l'agency, non pas individuelle, mais collective, face aux plateformes. Et donc ça, c'est pour... je sais qu'on ne pourra pas répondre à cette question aujourd'hui, mais je trouve, à mon avis, c'est quand même le cœur de cette critique très stimulante que tu fais des régulations, et peut-être plus largement d'une conception qui se développe aujourd'hui sur la régulation des plateformes qui ne les attaque pas en tant qu'infrastructure vraiment collective. Et puis là, j'ai des questions alors plus classiques de sciences politiques. Donc sur finalement, tu présentes tout un tas d'outils. Donc qu'en est-il de leur articulation? Donc finalement, comment on peut penser une meilleure articulation des outils de lutte contre, de régulation des données, mais aussi quand même les travaux de l'UNACAN qui prennent en compte l'infrastructure de marché, de la plateforme et des outils, par exemple, de content regulation. Est-ce que finalement, toi, ton idée, c'est la plateforme en tant qu'infrastructure marchande, c'est peut-être là qu'il faut d'abord l'attaquer plutôt que sur les questions de données et qui individualise vraiment les droits? Ou est-ce que tu penses qu'on peut articuler tout ça de manière, en fait, pas se priver de plusieurs fusils pour attaquer un très gros ours? Voilà, je me demandais aussi ce que tu as une réflexion vraiment intéressante sur... toute cette branche positiviste du droit américain. Et il y a aussi beaucoup de réflexions autour de la régulation. On est en train d'introduire des principes dans le droit, notamment de transparence, certaines obligations, mais qu'en est-il de leur effectivité? Et comment l'effectivité en fait de ces régulations, elle va dépendre aussi des rapports de force entre des autorités de régulation publique et des plateformes, mais aussi au-delà même des rapports sociaux, des rapports techniques. Qu'est-ce qu'on peut connaître réellement de, tu vois, tous ces dommages, la polarisation, la viralité, l'addiction, comment on peut les mesurer en tant que collectif politique, enfin, qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Et voilà, il y a quel type d'infrastructure politique, en fait, tu penses pour aussi développer. Donc, on a des infrastructures de plateforme telles quelles aujourd'hui, mais quelles sont les alternatives en termes d'infrastructure, pas seulement technique, mais aussi politique pour adresser ces questions, si je fais des anglicismes. Donc, voilà, désolée, c'est très foisonnant, mais voilà, je laisse peut-être, je sais pas comment procéder. Si tu réponds d'abord à mes questions et on prend ensuite.
Oui, il y a beaucoup de
questions. Je ne vais peut-être pas répondre à tout. J'ai essayé de répondre à quelques-uns de tes points. Donc, merci beaucoup, c'est super enrichissant et utile et intéressant de t'écouter. Je ne sais pas si commencer par la fin ou le début, parce qu'il y a plusieurs points qui se connectent. J'allais dire, sur le dernier point que tu as souligné sur la question de l'effectivité du RGPD ou de plusieurs de ces réformes européennes qui sont très ambitieuses en théorie, mais finalement, on ne sait pas trop si elles vont marcher en pratique. Je pense que ça se relie un petit peu à ce que tu m'as dit sur des rosières et la question, disons, un peu pragmatique de ce qui vraiment est important, c'est pas forcément cette espèce de question abstraite de l'autonomie de l'individu et comment protéger l'autonomie de l'individu online, mais c'est plutôt catégorisation à travers les données, elle porte à quoi, elle est faite pour quel but et quels sont les dommages en pratique que l'on peut, disons, discerner, quantifier, étudier. Parfois, ils ne sont pas forcément visibles. Et du coup, comment les étudier d'un point de vue de social science, c'est une grande question qui n'est pas forcément une question que je pose. Mais je pense que tu soulignes un peu, à travers ces questions, tu soulignes le fait que j'ai une approche assez pragmatique à la question, qui, je pense, est très différente de l'approche européenne traditionnelle ou, disons, dominante, qui est très focalisé sur le droit à s'autodéterminer, l'autonomie, cette idée très allemande un peu de comment doit être construit le droit et comment doit être construit le droit à la propriété, le droit à la protection des données, et qui est beaucoup plus américaine, qui est beaucoup plus focalisé sur mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça et est-ce que se focaliser sur la donnée à caractère personnel nous porte exactement à là où on veut être, en fait, dans l'économie actuelle. OK, je vais... Donc, j'ai un petit peu du mal à répondre au français, mais je voulais répondre à la question sur le rapport entre attention, engagement et données, parce que je pense que c'est très, très fertile comme question, et c'est une question que je me pose assez, en fait. Donc, je pense que la façon dont je pense à ce projet, c'est à différents niveaux d'abstraction. Donc, en fait, je vois la réflexion sur la donnée comme une réflexion qui est beaucoup trop abstraite. Donc, on est en train de réguler quelque chose qui représente quelque chose d'autre, qui peut être à un certain niveau remote, crée des dommages. Et on essaye de prévenir ces dommages en gouvernant la donnée. Et donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu du dommage? Et donc, l'attention, c'est en quelque sorte une façon de s'approcher à la personne réelle. Mais après, je pense qu'il y a plusieurs, disons, versions de ce terme d'attention qui sont plus ou moins proches de la personne et de leur vraie expérience, non? De leur embodied experience, as Julie Cohen would call it. Et du coup, je pense que tu peux dire, par exemple, le comportement, la sensation physique, l'embodied experience, c'est genre le niveau le plus, disons, corporel et réel. Et après, tu peux bouger vers l'idée d'engagement qui est, ou peut-être non, l'idée d'attention qui est peut-être déjà un petit peu artificielle, qui est déjà un peu construite. L'attention est quand même construite par les médias d'une certaine façon. Mais c'est quand même quelque chose d'encore lié à la personne et à l'habilité, la capacité de porter attention ou de se diriger vers un phénomène ou vers un autre. Après, je pense qu'après ça, il y a la question de l'engagement qui, là, est, à mon avis, complètement artificiel et complètement construit. Donc, l'engagement, c'est vraiment quelque chose que les plateformes veulent construire pour faire des profits. Et après, la donnée, je la vois comme ce que je veux dire en anglais, un byproduct. So, la donnée, c'est un byproduct of an experience. Et souvent, c'est un byproduct qui est produit par une interaction entre l'humain et l'infrastructure. Et du coup, ma question un peu dans ce projet, donc ce projet a commencé comme un projet sur la théorisation des données. Après, comme je trouve qu'il y a beaucoup trop de travail sur les données, ça m'a un peu saoulée de travailler que sur les données dans l'abstrait. Et je me suis dit, en fait, étant donné que je vois la data comme quelque chose de contextuel, peut-être que c'est plus intéressant de se focaliser sur un contexte. Et je voulais vraiment dire, OK, qu'est-ce que la donnée dans le contexte des social media? Et après, c'est devenu dans le contexte des économies de l'attention. Et du coup, bah, le shift ou l'argument que j'essaye de développer dans ce projet, c'est au lieu de se focaliser sur la donnée comme objet d'étude, comme source de dommages, comme objet juridique, la donnée n'est rien, en fait. C'est seulement le produit d'une interaction entre nous et une interface ou un système digital. Du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est quel genre de relation, quel genre d'injustice produit ce système digital as a whole, like, including the data, mais aussi en incluant les protocoles, les algorithmes et tous les autres phénomènes qui vont avoir avec la production des données et l'interaction entre personnes et entités online. Voilà. Que dire d'autre? Oui, peut-être. Donc, je suis en train de répondre un petit peu chaotiquement à quelques questions comme ça. Je vais juste peut-être répondre à une autre question. Peut-être deux autres questions. Donc, quel type de capitalisme? En fait, je vais laisser un peu décompter parce que je ne suis pas sûre. Mais je pense qu'il y avait une question intéressante sur la régulation et sur comment je conçois l'interaction entre le RGPD, le droit de la concurrence, le travail de l'INACAN, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment le focus d'un autre projet sur lequel je suis en train de travailler, qui est vraiment sur la régulation et qui est très aligné avec ce projet dans le sens où j'essaye de concevoir une façon de combiner différents apparats juridiques ou régulatoires pour, en quelque sorte, bridge the gaps. Donc, ce qui se passe, c'est que, surtout, je ne sais pas si certains d'entre vous étudient le droit de la concurrence, mais le droit de la concurrence est un système juridique en soi et les juristes de la concurrence ont tendance à vouloir garder les limites à hold the fort, like really délimiter la surface de.
Oh my gosh.
Okay, I'm gonna respond in English. So antitrust lawyers have a tendency to want to guard a certain kind of scope of expertise, and they really don't want to open up the boundaries of antitrust to questions of privacy law, to questions of free speech, to questions of injustice or inequality. And like all of those normative considerations are often pushed back by antitrust lawyers on the ground that these questions are ethical questions and all that interests antitrust people is efficiency and competition, okay? Et donc, il y a cette tendance un peu à créer ce concept de la concurrence et de l'efficiency for the sake of, afin de
construire une ligne entre le droit de la concurrence et tout le reste, ou le marché et la société. Et du coup, un peu mon projet, c'est de reconstruire un petit peu l'idée d'antitrust comme étant en fait quelque chose de très poreux et de très ouvert et que l'on peut concevoir de façon plus limitée en se focalisant sur cette idée d'efficiency ou plus connectée à la société en ouvrant un peu les limites entre la société et le marché. Donc voilà, et donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que ce à quoi dont j'arrive en ce moment, c'est que mon problème, ce n'est pas forcément qu'on ait des aires juridiques différentes qui s'attaquent à différents problèmes, mais c'est plutôt l'incapacité de ces systèmes, de ces écosystèmes juridiques de communiquer entre elles. Et du coup, il faut des façons de penser aux problèmes on the ground pour reconnaître les dommages on the ground et après combiner ces différents apparatus régulatoires et juridiques pour adresser ces problèmes. Voilà. Je pense que j'ai essayé, donc je vais laisser de façon plus longue.
Merci, super. Donc, en fait, on a trois questions en ligne, puis il y a Xenia et il y a Amérique qui lève la main pour poser ses questions à l'oral depuis Zoom. Peut-être on commence par Xenia qui lève sa main physiquement depuis un petit moment et puis je te parle des trois. Ils sont devenus quatre questions en ligne.
Il y a activé un micro sur Zoom comme ça.
Ah, d'accord.
Oui, du coup, ma question en fait est concernant Mastodon, parce que c'est quelque chose que j'étudie en ce moment avec Francesca. Et une chose qui m'a un peu surprise, c'est le fait que tu mets dans la même basket, dans le même panier, pardon, le 4chan, 8chan, Mastodon et Diaspora. Et pourquoi ça me surprend, c'est notamment parce que ça se base sur des architectures qui sont très différentes. Et notamment, Mastodon a adressé, dès son apparition, certains problèmes qui étaient innés à Twitter, notamment le fil d'actualité basé sur les algorithmes et non pas sur l'ordre chronologique, etc. Tout ça, on ne retrouve pas dans Mastodon. 4chan et 8chan, c'est comme si c'était tout un autre univers. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a une raison pour les mettre ensemble ou c'est juste une énumération des exemples sur lesquels tu n'as pas vraiment travaillé, mais tu penses peut-être dans le futur. Et je pense qu'ici, la question d'infrastructure, elle est vraiment importante. Et comment les architectures, elles, peuvent résoudre ou peut-être poser d'autres problèmes ou provoquer d'autres dommages, d'autres types de dommages. Comme Mastodon qui a un dommage, c'est de se retrouver dans une espèce de echo chamber par design. C'est-à-dire que ça crée des bulles où on est d'accord avec les autres sur le même serveur, on est sur la même instance, on partage les mêmes valeurs. Donc l'attention, elle circule au sein du même milieu. C'est d'autres types de questions qui sont posées. Donc c'est juste une petite observation pour Mastodon. Merci.
Ouais, ok, super question. D'accord, oui. Ouais.
Il y a cette question parce que philosophique sur le lien entre attention et richesse financière du téléphone à explorer. Puis il y a une question sur est-ce que votre recherche offre des pistes pour réhumaniser notre santé? Typiquement sur le plan d'éducation type quasi-médical, donc un type particulier de données, un peu particulièrement sensible. Une question sur, il a été évoqué des intermédiaires au public pour transformer l'expérience en ligne, ce qui est assez séduisant. Si tu peux revenir sur ce point, sur la forme que pourraient prendre ces intermédiaires. Et enfin, une question sur les deux types de régulation, les deux types individuels et collectifs. Il est saisissant que les sources de l'approche individuelle sont de régulation et l'approche sociale des propositions de sciences sociales. Donc, est-ce que l'exécutif est trop proche du marché ou les sciences sociales n'arrivent pas à insérer leur analyse dans les fondations légales de ces exécutifs? Je ne suis pas tellement sûre qu'Arsène ne comprend plus par exécutif, en fait.
Oui, oui. Non, mais c'était un peu surprenant parce qu'en fait, on a la côte à côte, l'approche.
On n'entend pas très
bien. Je vais essayer d'être bref, mais dans le tableau, merci d'ailleurs pour la présentation très intéressante. Déjà, sur le tableau des deux approches de régulation ou régulative, où vous opposez individuel et collectif, vous avez indiqué des sources, enfin des références par rapport à ces approches. Et côté individuel, on voit, et c'est tout à fait compréhensible, justement, des régulations, des actes de régulation, RGPD, Californie, etc. Et à droite, on voit en fait des écrits de chercheurs en sciences sociales ou dans d'autres disciplines. Et je me posais tout simplement la question, si on voit la réalisation en fait à travers les actes d'RGPD ou autres, de ces réalisations individuelles, d'approches individuelles qui aboutissent, et de l'autre côté des propositions qui n'arrivent pas visiblement à infiltrer ou à influencer ces réalisations régulatives, est-ce que c'est... Comment vous interprétez en fait cette... D'abord, est-ce qu'il y a une étanchéité entre les deux côtés? Et deuxièmement, si c'est le cas, est-ce que c'est tout simplement que les législateurs, l'exécutif, donc, est trop proche des marchés qui, eux, portent cette vision individualiste ou individuelle? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de notre côté, je nous mets tous dans le même pot, mais des chercheurs en sciences sociales qui n'arrivent pas avec ces visions collectives, relationnelles, à vraiment influencer les régulateurs?
Voilà. Oui, est-ce que, Aymeric, vous pouvez poser votre question?
Pardon. Oui, bonjour. Je suis Aymeric Ponviane, je suis conseiller économie à la CNIL, l'Autorité française de protection des données. On est en train de développer la fonction économique à la CNIL. Nous avons aussi... Nous avons aussi à la CNIL un laboratoire d'innovation numérique que certains d'entre vous connaissent, notamment Anne, qui a collaboré avec nous récemment, qui a un regard aussi pluridisciplinaire sur ces questions. Donc, on suit avec intérêt les uns et les autres votre séminaire. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le caractère trop individualiste, méthodologique du RGPD, le fait que ça crée des asymétries, l'importance que la donnée est un by-product d'une infrastructure technique, de l'importance de, comme disait Anne, de regarder la partie infrastructurelle, etc. Mon commentaire, c'était plutôt sur l'angle d'attaque. La donnée est un paradigme relevant, slash dépassé, slash toujours pertinent. Par rapport à ce qu'est l'attention. Et quand même, quand on regarde ce que c'est que l'exploitation des caractéristiques d'une personne par le capitalisme, voilà, on va dire ça comme ça, la donnée, c'est pas mal, parce que la donnée, c'est l'extension, c'est la projection d'une personne sur une infrastructure technique machine. C'est le by-product de l'activité de la personne, mais c'est quand même quelque chose qui s'attache à la personne, donc quelque part, au moins autant que le travail, au moins autant que... c'est quelque chose qui, en termes éthiques et de dignité, est quand même éminemment rattachable à une personne, et qui, quand on pense en termes d'exploitation, c'est quand même très pratique de penser par la donnée, parce que la donnée comme objet d'exploitation, c'est quelque chose qui réfère directement à la personne et à sa dignité. Donc, si on veut changer de paradigme, il faut, pour trouver mieux que ça, il faut quand même travailler beaucoup. Alors, justement, là-dessus, moi, j'avais une question. Alors, vous allez me dire, je plaide pour ma boutique, certainement, mais pas que. J'ai quand même une question. Dans ce qui est dans l'exploitation de l'attention, et notamment, Erika, vous nous avez présenté deux business models. Le modèle Netflix, abonnement, qui est dans l'exploitation, on va dire, intensive de l'attention parce qu'il est proportionné aux services consommés, et l'exploitation extensive Facebook, qui consiste à magnifier, rendre extrême, rendre le plus maximal possible le temps passé sur la plateforme. Mais pourquoi un modèle d'affaires est toxique alors que l'autre est plus proportionné? Je reprends vos termes. C'est parce que le modèle d'affaires toxique, il se finance par la publicité et il se finance par la data. Et donc, pour maximiser le return, enfin le profit sur ce modèle d'affaires, il faut toujours plus de data et donc toujours plus d'attention. Mais finalement, ce qui est causatif du profit, c'est la data, ce n'est pas l'attention. L'attention n'est qu'un moyen d'arriver à la data qui permet de cibler de vendre la publicité de plus en plus cher finalement et d'individualiser la publicité. Donc, pourquoi ce modèle d'affaires est toxique pour l'individu, c'est à cause de la gratuité, parce qu'on n'est pas dans un calcul économique où la personne met en balance sa consommation du modèle, c'est-à-dire le bénéfice que ça lui apporte, l'utilité, disent les économistes, et les coûts, le coût en matière d'attention, en matière de data, que ça lui, d'exploitation de son attention et de sa data que ça lui occasionne, des utilités, parce que la gratuité fait que psychologiquement, il y a une surconsommation du service. Et donc, il y a une sous-estimation des coûts et une surestimation des bénéfices de l'utilité tirée du service. Parce qu'on est dans la psychologie irrationnelle de la gratuité. Donc, finalement, quand on regarde le couple gratuité du business model pour la personne d'un côté et exploitation par la data de l'autre, est-ce qu'on n'est pas quand même en train de raconter une histoire vachement pertinente sur ce qui se passe dans le capitalisme numérique aujourd'hui et ses effets détrimentaux sur les personnes, l'exploitation de leurs données et de leur attention, in fine. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un aspect heuristique à ce couple gratuit data, malgré tout ?
Effectivement, normativement, c'est quand même très unilatéral, c'est-à-dire que ça part du principe quand même que c'est toxique. Je pense que c'est bien quand même de polariser un peu l'antagonisme, de rajouter un terme moral en disant « bah oui, mais il y a des personnes qui l'ont présenté comme positif avant, toujours, maintenant, et notamment à travers la question de l'attention, de l'information, de la connaissance, etc. etc. » Donc, je pense que ce n'était pas inutile de le faire en termes de valeur, mais aussi en termes d'acteurs, parce que la même chose… Il y a une main un peu invisible qui est l'État, en fait, chez tous les acteurs publics et qui ont des enjeux moraux, sociaux, économiques aussi, à poser des cadres de régulation. Et je pense que c'est bien de repeupler un petit peu ce paysage, quoi, parce que là, on a d'une certaine façon qu'un type d'acteur sur la scène. Ce qui a été dit sur l'attention, c'est très juste. Il y a 40 ans, 50 ans de sociologie de la culture sur les pratiques pour dire que ça peut être plein de choses, quoi. Ça peut être plein de choses, et notamment en Angleterre, la sociologie de la culture se dit depuis Hogarth a beaucoup travaillé cette question de l'attention et qui renvoie et qui a beaucoup renvoyé à un débat dans les années 70 sur la télévision et des effets de l'attention, de la publicité, des programmes et tout ça. Et là, je pense aussi, je ne sais pas si tu l'as fait, c'est peut-être un travail que tu as déjà fait, mais de comparer ces deux périodes, on retrouve des mêmes formules, hein, d'ailleurs, assez régulièrement. Je pense que ça peut être très profitable. Et de ce point de vue-là, c'est juste un mot de conclusion. Ouais, enfin, je ne suis pas sûr, en fait, que ce soit les meilleurs outils pour se demander c'est quoi le capitalisme numérique. Parce que la formule abonnement, la formule publicité, c'est très, très vieux, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, enfin, je pense que les effets nouveaux, ils sont ailleurs. Mais de ce point de vue-là, à la limite, ça serait, je pense, plus intéressant de faire une généalogie sur les industries culturelles un peu classiques et sur la manière dont elles sont financiarisées. Et encore une fois, l'attention et la rhétorique de l'attention, c'est quasiment du go-to-market, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vend aux annonceurs qui ne comprennent pas forcément la production de ces données et la production de la donnée qui est faite avec beaucoup d'agrégation. C'est jamais des questions de personnes. C'est jamais des questions de personnes. C'est des profils qui sont placés complètement distordus et morphologisés.
Super. Du coup, OK, j'ai beaucoup de questions. Je pense que je vais répondre à la première question d'Oxenia et à la dernière question en même temps. Parce que je pense que c'est deux questions un peu sur le scope of the project et donc quel type de plateformes sont inclus. Est-ce que je veux parler de la télévision? Est-ce que je veux parler de certaines plateformes en particulier et pas d'autres? Et du coup, je vais dire simplement que c'est une question qui est encore ouverte. Pour répondre à la première question sur Mastodon en particulier, pourquoi je comparais avec 4chan ou 8chan ou machin, en fait,
cette slide est plutôt ancienne. Elle date de pré-Elon Musk et Twitter. Et du coup, Mastodon était encore une plateforme que personne ne connaissait.
C'est pas vrai.
Je pense que, que personne ne connaissait, sûrement pas dans cette salle, mais certainement, disons, au supermarché, personne ne connaissait Mastodon. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui connaissent Mastodon, je pense. Donc, quand même, il y a eu un changement. De là à dire que c'est la même chose, pas du tout. C'était plutôt pour dire qu'il y a des business models différents. Mais c'est sûr que je dois décider si je veux me focaliser sur seulement les social media for profit basés sur la publicité ciblée comme Facebook et le comparer à un modèle comme Netflix et c'est tout, ou si je veux définir l'économie des plateformes de l'attention de façon plus large. Et en fait, je pense que mon objectif, c'est d'essayer de trouver un middle ground où je définis l'économie des plateformes de l'attention de façon assez large, mais après, je me focalise sur un ou deux modèles parce que je ne peux pas non plus. C'est déjà un projet qui pourrait être un livre, donc je pense que sinon, ça deviendrait un peu trop. Donc, pour répondre à la question sur la télévision, je pense que c'est une question très intéressante. Je pense que d'un côté, il y a une réponse peut-être simple à quelle est la différence entre certains médias qui préexistaient à Internet et ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie des plateformes, qui est cette sorte de quantification de l'attention, de pas seulement profilation, mais aussi, disons, modulation. L'individu devient une sorte de profil auquel on envoie des informations individualisées. Et du coup, ça crée quand même un écosystème de l'attention, mais aussi un écosystème démocratique ou d'échange qui est très différent parce que les informations auxquelles j'ai accès ne sont pas les mêmes informations auxquelles Anne a accès, etc. Et ça, c'est très différent quand même du système télé ou du journal traditionnel, etc. Et donc, je pense qu'il y a quand même une différence qui est intéressante. Et c'est pour ça aussi que la question des données se pose, je pense. Et ça se connecte à certaines des autres questions, mais je pense que la donnée, c'est ce qui rend le système de l'attention dans le monde des plateformes différent un peu du système qui existait avant. Ce qui ne veut pas dire que les dommages que l'on voit aujourd'hui ne sont pas des dommages que l'on voyait avant. Et justement, je pense qu'il y a du travail à faire sur quelles sont les choses qui sont restées, comment comprendre l'économie des plateformes en continuité avec le passé, mais aussi comment définir les spécificités de façon réaliste et pas de façon sensationnelle comme it's all surveillance capitalism. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans une généalogie des médias qui pourrait être très intéressant. Je ne sais pas si je pourrais le faire dans ce projet, mais merci. Et je vais donc répondre aux autres questions. Le lien entre richesse et attention, richesse financière et spirituelle et attention, c'est assez intéressant. J'ai pensé un petit peu à ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de, disons, intégrer dans ce projet. Mais je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect aussi d'âge. Les adolescents ont tendance à avoir beaucoup de problèmes avec les plateformes et peut-être que d'autres tranches d'âge ont moins de propensité à l'addiction, par exemple, ou à avoir des dommages attentionnels. Et peut-être que certaines de ces tranches d'âge ont aussi des liens avec la richesse. Il y a des questions intéressantes sur si on construit un écosystème qui nous permet de contrôler un peu plus notre expérience en ligne, comment financer ce système. Et donc ça se lie un petit peu à la question des public utilities ou des intermédiaires. Et je pense que plus on crée un écosystème qui doit en quelque sorte être financé par l'individu, plus ça devient un système un peu hiérarchique où les personnes les plus aisées pourront se permettre de contrôler leur attention et de, du coup, prendre plus de temps pour être avec leur famille, alors que peut-être les plus pauvres passeront tout leur temps soumis à l'addiction que construisent les plateformes. Donc, je pense qu'il y a des aspects assez intéressants à explorer, mais je ne les ai pas explorés non plus en détail. La santé, je pense que c'est un thème très actuel. Comment réhumaniser la santé, ce n'est pas forcément quelque chose auquel j'ai réfléchi, donc je ne vais peut-être pas répondre, mais je pense qu'il y a beaucoup de petites réalités de data qui essayent de mettre les données à caractère personnel, de les mettre, disons, de les collectiviser et de les mettre à disposition d'hôpitaux ou de chercheurs en santé. Et du coup, je ne sais pas si ça, on peut appeler ça humaniser, mais c'est certainement quelque chose qui se passe dans cet écosystème. Donc voilà, après humaniser la santé dans le sens retourner chez le médecin et pas avoir de rendez-vous avec le médecin online, oui, je suis pour, mais voilà. Donc je vais laisser le salam, mais je suis heureuse, si vous voulez m'écrire un mail, on peut en discuter par email. Sur les intermédiaires et les public utilities, donc je pense que c'est une question très intéressante. C'est une question sur laquelle je veux travailler plus et que j'ai pas forcément eu assez de temps pour travailler dessus, mais j'ai un projet sur les coopératives en Europe. En fait, il y a disons, il y a des limites qui sont posées par cette approche individuelle aux données. Donc le fait que le RGPD domine la gouvernance des données fait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires ou de petites réalités qui pourraient avancer d'autres façons, permettre d'autres façons de réguler les données qui ne sont pas possibles parce qu'on doit toujours avoir le consentement de la personne concernée, il faut toujours respecter certaines obligations procédurales qui ont à voir avec l'individu. Et du coup, il y a beaucoup d'intermédiation qui n'est pas possible en fait dans un milieu digital, ce qui rend le landscape pas très divers et pas très intéressant. Donc il y a le point de vue du droit des données, il y a aussi le point de vue du droit antitrust qui je pense est très intéressant. Il y a une chercheuse du droit antitrust aux États-Unis qui travaille sur le fait que l'antitrust, en fait, c'est une branche du droit qui est basée sur la location des droits à collaborer, à coopérer. Et du coup, l'antitrust, en fait, ça I'm going to say this in English. It allows people within a firm to coordinate in ways that are not possible for independent workers. And so it creates a sort of inequality of size because it incentivizes the creation of large business enterprises where it's possible to coordinate, and it disincentivizes independent labor and kind of small business realities. Donc il y a des profils, il y a des aspects aussi du droit antitrust qui ne permettent pas à certaines petites réalités ou petits intermédiaires d'exister. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui rendent la possibilité d'intermédiaires réellement émancipatoires limitée et problématique. Mais je pense qu'il y a énormément de marge pour penser plus à des public utilities, à des plateformes à but non lucratif, à des competitors, à des alternatives aux grandes plateformes for profit qu'on a aujourd'hui. Les deux dernières questions. La question sur l'individuel et le collectif, et pourquoi est-ce que les chercheurs comme nous se focalisent sur les systèmes collectifs et pourquoi est-ce que ces systèmes collectifs ne sont pas forcément ancrés dans le droit. Je pense que le Data Governance Act essaye un petit peu de pousser dans ce sens-là, mais again, comme je viens de dire, il y a toujours ce problème du RGPD qui limite un peu les possibilités et du coup, je pense que le RGPD est vraiment un obstacle à repenser la donnée. En Europe, et je pense qu'il y a des systèmes très semblables partout dans le monde maintenant. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est vraiment que pré-directive sur le droit des données, je pense qu'il y avait quand même un peu plus de possibilités sur comment conceptualiser la donnée dans une société ou comment conceptualiser une société digitale Et maintenant qu'on sait un peu, qu'on a trouvé un consensus autour de l'idée de données personnelles ou de l'idée de données comme une espèce, comme un objet qui est un objet régulatoire, ce sera très difficile de retourner en arrière, je pense. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, les chercheurs essayent, parce que c'est du point de vue, disons, théorique et logique, et ça a énormément de sens. Mais je pense que du point de vue régulatoire, c'est très difficile, en fait, de changer les paradigmes. Et du coup, il y a pas mal d'efforts d'agir aux marges du droit des données, mais je ne pense pas qu'on pourra, disons, dépasser le droit des données dans les prochaines 10 années. Après, on verra, je ne sais pas. Voilà, et enfin, la question d'Emeric sur Netflix, Facebook et l'importance des données. Et je suis d'accord, en fait. Je pense que la façon dont tu as caractérisé mon projet est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai commencé ce projet. Donc, je voulais vraiment essayer de comprendre et théoriser le rôle des données dans la spécificité de la plateforme en ligne par rapport à des plateformes comme Netflix ou par rapport aux médias traditionnels comme la télévision. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose certainement à étudier de très important dans la donnée, et je ne veux absolument pas dire n'étudions plus la donnée. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de littérature extrêmement intéressante qui comprend la donnée comme représentation matérielle de relations et du coup comme objet central d'étude, parce que la donnée révèle la société, en fait. Et du coup, c'est très intéressant de prendre la donnée comme point de départ. Mais je pense que la réponse que je donne un petit peu à cette littérature, c'est qu'en disant que la société est représentée par la donnée, je pense qu'on se focalise un peu sur le byproduct de la vraie société sur laquelle on doit agir. Et du coup, c'est peut-être un bon miroir à étudier, mais ce n'est pas forcément les infrastructures des données sur lesquelles il faut travailler du point de vue régulatoire. Voilà. J'espère avoir répondu à presque toutes vos questions. Merci beaucoup.
Et je pense qu'il y a 12h42, on peut terminer la séance officielle de ce séminaire avec beaucoup de pistes pour le déjeuner et pour les conversations. Merci beaucoup, Elette, et merci, Anne, pour avoir eu l'idée de ce séminaire, la super discussion. Merci à toutes les deux et à une prochaine pour le séminaire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.